Pour fêter les 10 ans de l'appellation AOP Terrasse du Larzac, RPH vous propose d'écouter 4 podcasts qui dressent le portrait de vigneronnes et vignerons passionnés et de leur agriculture. Vous pourrez les retrouver sur la web application de la visite œnotouristique de l'appellation Itinérance en Terrasse du Larzac. Pour tout savoir sur l'appellation, rendez-vous à la 21e édition de la Circulade en Terrasse du Larzac, les 5 et 6 juillet à Jonquière. Les réservations sont ouvertes pour cette balade gustative unique. Santé.
C'est compliqué ici au château de Jonquière de savoir par où commencer parce qu'il faut, plonger, très cher François de Cabissol, très loin.
Le château de Jonquière remonte au XIIe siècle. Pourquoi vous riez?
Bah, parce que vous faites la paire.
Ah oui. C'est ce qu'on dit depuis longtemps, effectivement, et ça fait quand même combien 30...
39.
39 ans que ça dure, donc effectivement, je pense qu'on fait une... Disons qu'on est complémentaires, voilà. Alors, pour revenir à votre question, les origines du château de Jonquière datent du XIIe siècle, et ce qui est extraordinaire, c'est dans la famille depuis le XIIe siècle. Cette propriété n'a jamais été vendue, et je pense que ça rend quand même ce domaine unique. Donc ça puise ses origines et c'est ce qui fait, je dirais, la puissance de cette maison. Il y a deux choses. Il y a le fait que ça n'ait jamais été vendu, donc toujours transmis, et ça, c'est toujours, cette maison s'est toujours appuyée sur l'agriculture et la viticulture. Et ce qui en fait justement une propriété qui a pu être transmise, parce que c'était vrai, il y avait vraiment des valeurs de terroir, de production. Il y avait une valeur économique aussi qui permettait d'avoir une certaine rentabilité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Charlotte a pu reprendre en 2014.
Le château de Jonquière, mon père en a hérité dans les années 65-69. Et moi, j'en ai hérité de mon père directement, mais le nom Cabissol ne sera pas présent très longtemps dans l'histoire du château de Jonquière, puisque maintenant, Charlotte a épousé Clément de Béarn, donc... Voilà quoi.
Charlotte, vous avez épousé Clément de Béarn, qui lui-même est vigneron. Donc l'histoire du château, l'histoire viticole est dans vos mains.
Effectivement, juste pour revenir un petit peu sur le passé, le domaine a toujours une vocation agricole et viticole. La cave qui est juste à côté de nous est en activité depuis des siècles. Quand mes arrière-grands-parents en ont hérité, donc dans les années 60, ils ont décidé d'arrêter la production de vin dans la cave, mais ils ont gardé toutes les vignes autour. Et on a toujours des parcelles de cette époque-là, mais tous les raisins étaient apportés à la cave coopérative du village d'à côté. Mes parents sont arrivés dans les années 70. Ma mère est arrivée en tant que jeune vendangeuse, pardon, et elle est restée. Et ensuite, en 92, ils ont recommencé à vinifier dans cette cave après 30 ans d'arrêt de production de vin. Et aujourd'hui, ça fait donc 30 ans, puisqu'on est en 2022, que le château de Jonquière refait du vin en bouteille.
Je voudrais juste rajouter une petite anecdote, parce que nos enfants nous ont toujours beaucoup vu travailler, évidemment. Et ce qui est amusant, nous avons 3 enfants, et Charlotte, depuis qu'elle est petite, nous a toujours dit « Jamais je travaillerai dans les vignes, et jamais j'habiterai à Jonquière. » Et je pense que c'est la rencontre avec Clément qui a fait...
Le déclic.
Oui, et puis c'est surtout, et c'est ce qui nous émeut beaucoup avec François, c'est que c'est au-delà d'un projet économique, c'est vraiment un projet familial. C'était de vivre à Jonquière, d'élever leurs enfants à Jonquière, de reprendre une propriété de famille. Clément est très attaché à cette notion. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Et c'est amusant parce qu'on retrouve un peu, sans dire qu'on est un modèle, mais le fait que nous, on ait travaillé toujours ensemble avec François, on est heureux de voir que ce style de vie, de travail en couple, fonctionne et qu'on ait pu transmettre ça quelque part à Charlotte et que Clément ait vraiment pris complètement part à ce projet.
C'est vrai qu'on a décidé de reprendre, proposé à mes parents de reprendre en septembre 2011, à la fin de nos études, on avait 24 ans. Et Clément, effectivement, lui, est issu de deux familles vigneronnes, puisque ses deux grands-pères étaient vignerons à Béziers et Montpellier. Mais les propriétés se sont fait un petit peu engloutir par la vigne, la ville, et ont été abandonnées. Et donc, effectivement, quand il a vu Jonquière et ce que mes parents en avaient fait, il m'a dit, il m'a proposé de reprendre avec moi. Donc, quand on a annoncé ça à nos copains, ils nous ont un peu regardés comme des fous, puisqu'à 24 ans, on venait à Jonquière, village de 400 habitants. Et même si, évidemment, parfois, on a des moments de doute, je me rassure en me disant que je ne me verrai pas ailleurs.
Il y a eu une histoire en mouvement, jusqu'à devenir cette appellation d'origine contrôlée, que sont les terrasses du Larzac.
Ça, c'est plus François, hein. Les terrasses du Larzac, c'est un certain nombre de viticulteurs qui ont voulu porter à la connaissance de tout le monde qu'ici, il y avait un très beau terroir. Donc, c'est la combinaison. Les terrasses du Larzac, enfin, après Charlotte vous en parlera mieux parce qu'elle est aujourd'hui très impliquée. Mais en tout cas, à l'époque où nous étions, qui était plutôt à l'origine, c'était la combinaison d'hommes et d'un terroir.
C'est le plus beau terroir de France. Du monde. Charlotte en dira plus.
Charlotte sait, et puisqu'aujourd'hui vous êtes vice-présidente aussi des terrasses du Larzac, de l'appellation d'origine contrôlée, sait que ces terroirs sont d'exception et sait aussi ce qu'ils doivent peut-être à tous ceux qui sont arrivés et ont fait évoluer les choses.
Oui, je reviens juste un petit peu sur l'histoire. Le monde considère que le Languedoc fait du bon vin depuis 30 ans. Mais ici, j'ai une liste de prix d'un importateur au Canada qu'on a retrouvé dans les archives du château de Jonquière, 1870. Et une information très importante au niveau Languedoc, c'est que les vins du château de Jonquière étaient vendus au même prix que les Saint-Émilion, à 4 $, et que les muscats frontignans étaient vendus au même prix que du Sauterne, à 12 $. Donc l'histoire du Languedoc qualitatif, elle n'a pas que 30 ans. Donc ça, c'est important. Donc effectivement, Terrasse du Larzac, reconnaissance en 2014. Et moi, je suis arrivée dans le syndicat en 2014, finalement, dès mon arrivée en tant que vigneronne. Donc pendant 2 ans, j'ai regardé, j'ai écouté. Et effectivement, on a accueilli énormément de nouveaux vignerons, des néos, comme on dit, ou alors même des enfants de viticulteurs, hein, et qui sont des gens d'ici. C'est un peu ce qui fait la richesse de ce terroir et de ce territoire, c'est qu'il y a une multitude d'origines, de personnages, mais on est tous ici pour un même objectif, c'est la rencontre qualitative et la valorisation du terroir, des lieux, des paysages. Donc je crois que c'est ce qui en fait une des qualités principales.
François de Cabissol, vous avez fait partie de ceux qui l'ont imaginé, qui l'ont un peu fécondé, cette naissance d'une appellation ?
Complètement. On était 5 ou 6, on n'était pas nombreux. Et puis, nous voilà partis à monter un dossier. Ça s'est étoffé, on se réunissait. Je me souviens, c'était dans le bureau d'Olivier Julien. Et c'est vrai qu'au début, on était quoi, une trentaine, une quarantaine. C'était une période excitante parce qu'on savait qu'on créait quelque chose de fort, d'important, où on se retrouvait. Pour moi, ça a été une époque excitante et géniale.
Je dirais ce qui a été très fort au niveau des terrasses du Larzac, c'est que la volonté est venue des vignerons. Quand c'est les hommes qui veulent quelque chose ensemble, à la base, et ben forcément, c'est quand même toujours plus fort. Et je pense que chacun a compris que tout ce que chacun pouvait apporter était bénéfique pour tous, en fait. Voilà. Et qu'il n'y avait pas des vins mieux ou moins bien. C'est qu'il fallait justement tendre tous vers la qualité de façon unanime. Et c'était ça qui était porteur du projet et qui pouvait faire en sorte que les terrasses passent effectivement en appellation, ce qui a été le cas effectivement en 2014. Et aujourd'hui, continuer à garder cette qualité avec un nombre croissant et continuer à motiver, il faut toujours rebondir sur des nouveaux projets pour que ce soit fédérateur, engageant. Et ça, c'est le rôle, effectivement, de la présidence d'aujourd'hui.
On a des super blancs en terrasse du Larzac. C'est un territoire, évidemment, de rouge, mais les blancs sont frais, sont élégants, ont du caractère. Donc, une des prochaines étapes aussi, ça sera d'aller faire reconnaître un vin terrasse du Larzac en blanc.
C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on a commencé à parler des terrasses du Larzac, moi, j'ai jamais imaginé que ça deviendrait ce que c'est actuellement. Et alors, dans 20 ans, je ne sais pas où ça en sera, mais je pense que c'est une appellation qui a beaucoup d'avenir.
dire que nous, on est arrivés au vin par la vigne. C'est important aussi, ça. C'est-à-dire que François, et bon, encore avant moi, mais moi avec lui, on a commencé d'abord à travailler la vigne. Et on a fait du raisin. Et l'envie de faire du vin est venue plus tard. Donc nous, on est arrivés au vin par la terre. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent, viennent par le vin. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont passionnés par le vin et qui veulent faire du vin. Donc, viennent à la terre. Nous, notre chemin était complètement l'inverse. Donc, notre connaissance du vin était relativement limitée. On avait une très grande connaissance de la terre et de la culture, mais pas du vin. Donc, c'est vrai que pendant très longtemps, on avait ce doute en nous. Parce qu'on est allé en fait par empirisme complètement. Et on a découvert ce que faisait un carignan dans la cuve, on a découvert ce que faisait une syrah dans la cuve, on a essayé différentes méthodes, on a essayé de palisser, moins palisser, bourgeonner, pas ébourgeonner, enfin, laisser plus de raisins, effeuiller, pas effeuiller. Donc on a fait beaucoup d'expériences. Et quand on fait des expériences, eh ben, on n'est pas sûr du résultat. Et puis il faut comprendre aussi que faire du vin, ça va paraître bateau ce que je dis, mais on le fait une fois par an. Un boulanger, il rate son gâteau, il le refait dans l'heure qui suit. Nous, une fois que le raisin est dans la cuve, eh ben il est dans la cuve. Une fois qu'on a fait la manipulation, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, on doit attendre un an avant de refaire une expérience. Donc, tout ça fait qu'on met longtemps à avoir des expériences qui s'accumulent, qui permettent d'avoir une certaine sérénité. Quand on a commencé à vendre notre vin en 94, parce que notre première cuvée était de 92, moi, je tremblais derrière le comptoir en disant « Mais pourvu qu'il l'aime, pourvu qu'il l'aime !» Et c'est vrai, et je pense que ça nous est un peu resté. Bon, après, on a pris confiance en nous quand même. Hein. Si on est encore là, donc on sait qu'on a trouvé vraiment notre équilibre là-dedans. Mais cette pointe de doute, je pense, nous a toujours habités. Donc, faire du vin, on le fait une fois par an. Enfin, on récolte une fois par an. Mais par contre, les décisions, elles sont quotidiennes. Quand est-ce qu'on doit intervenir dans cette vigne-là? Quand est-ce que la date de récolte est vraiment un moment essentiel? Quand est-ce que je dois décuver? Quand est-ce que je dois presser? Comment est-ce que je vais assembler? Est-ce que j'en mets un peu plus, un peu moins? Enfin, c'est des prises de décision quotidiennes et qui sont finalement assez complexes parce que chaque décision impacte la décision suivante. Et elles sont toutes liées. Parce qu'en fait, de faire du vin, c'est une ligne droite où on commence par faire du raisin. Mais pour faire du raisin, il y a beaucoup, beaucoup de décisions. On met un an pour le produire, ce raisin. Et ensuite, pour le transformer, pour l'élever, pour l'habiller, pour en parler. Et commercialement, on arrive au bout où le consommateur va boire quelque chose où on a mis quasiment 3 ans à faire. Et c'est là où, effectivement, quand vous avez en face de vous un consommateur qui n'a pas tout à fait compris qu'on a mis 3 ans... et qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de remises en cause, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, et qui prend son verre et qui dit « Ouais, ben, ce blanc-là, je ne l'aime pas trop. » Et ben, boum !
Et s'il fallait aujourd'hui passer, puisqu'on vient de l'évoquer, à ce moment-là si précieux qu'est la dégustation, vous avez envie de nous faire découvrir quel vin, Charlotte ?
Ici, je vais vous faire découvrir le Lansade. L'ancêtre, voilà, le nom de la famille qui est justement exporté au Canada en 1870. Donc pour nous, c'est un réel hommage à ceux qui faisaient du vin ici sur ce territoire bien avant nous. C'est un assemblage de Carignan, Syrah, Grenache et Mourvèdre, et justement une dominante de Carignan qui est un des cépages principaux du Languedoc en général, et en terrasse du Larzac particulièrement. Ce n'est pas un cépage secondaire, malgré tout le passif qu'a pu avoir le Carignan, mais on s'est battu pour que le Carignan devienne cépage principal. Et justement, dans cette cuvée, on l'a mis en tant que cépage principal pour vraiment faire une cuvée terrasse du Larzac, typique de ce territoire. 60% est élevé en cuve et 40% est élevé en fût, en barrique, parce que quand même, le Carignan... il faut le travailler, lui donner un petit peu d'air et l'assouplir. Donc ici, on a un vin qui est plutôt clair, en robe, puisque sur nos secteurs, on ne va pas aller vers l'extraction des couleurs, mais plus vers l'élégance des jus, l'élégance des cépages. Donc chez nous, vous ne verrez jamais des couleurs trop extraites. Donc on a des arômes de fruits, évidemment, des arômes floraux, mais aussi des arômes de garrigue, puisqu'on veut en faire un vin où voilà, le terroir s'exprime, tout comme côté olive verte aussi.
En bouche ?
En bouche, on a un vin qui va se présenter tout en délicatesse, avec une trame tannique modérée du fruit et une belle acidité, une belle fraîcheur qui vient en fin de bouche pour relever le vin.
Retrouvez les podcasts Itinérance en terrasse du Larzac tous les mercredis du mois de juin à 9h35 et sur notre site internet rphfm.org.